Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Maritime. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a un studio quasiment plein aujourd'hui, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, on a Rama qui est avec nous. Bonjour Rama.
Bonjour tout le monde.
Ça va Rama?
Très bien, merci.
On a également Mario. Mario qui nous fait le plaisir de revenir, il était déjà là la semaine dernière. Salut Mario, ça va?
Salut.
Ça va?
Oui, très bien.
On a également Romain de Radio Marie-Christine.
Bonjour.
Ça va Romain?
Oui, très bien, merci.
Trop chouette. Camille de la Ligue des droits humains et qui est notre invitée aujourd'hui, avec qui on va parler un petit peu du déménagement de la Ligue des droits humains à Molenbeek.
Tout à fait. Bonjour et enchantée.
On a également Malika, une habituée qu'on ne présente plus.
Bonjour à tous.
Et je suis aussi accompagné de Clémentine et Thibault.
Bonjour.
Ça va?
Tout le monde va bien?
Oui.
Tout le monde va bien?
Ben oui, on va bien, c'est super. On est tous très très heureux d'être là.
Ben, trop chouette.
De refaire de la radio en direct.
Waouh, la radio en direct, incroyable.
Ouais.
Je vais moi brancher l'ordinateur et on va commencer directement peut-être avec toi Camille. On va s'écouter un petit son dans quelques temps. Monsieur Patrick en retard, comme à son habitude.
Bonjour Monsieur Patrick.
Je me suis trompé dans le break, excusez-moi.
Oui. Vous étiez au studio 2, c'est ça, au deuxième studio? Non, on va commencer par parler de la Ligue des droits humains et du déménagement de la Ligue des droits humains, justement, boulevard Léopold II. Il y a quelques temps, vous aviez fait une campagne de financement participatif pour occuper de nouveaux locaux et déménager du centre. Je crois que vous étiez dans le centre.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette campagne et les missions de la Ligue des droits humains pour ceux qui ne connaissent pas?
Oui, tout à fait. Mais du coup, je vais peut-être commencer par ça. Donc, la Ligue des droits humains, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on l'appelait plus souvent avant la Ligue des droits de l'homme. On a changé de nom il y a 2 ans. Et du coup, c'est une association d'éducation permanente qui s'occupe de défendre les droits et libertés en Belgique depuis déjà plus d'une centaine d'années. Donc, concrètement, notre action, c'est surtout des actes à travers des recours en justice ou du lobby politique pour justement faire respecter les droits fondamentaux. Et puis on a aussi du travail d'éducation permanente avec plusieurs formateurs qui organisent des activités avec des citoyens, adultes et adolescents pour faire de la sensibilisation, par exemple, aux droits face à la police, aux discriminations, aux droits des personnes migrantes. On travaille vraiment sur énormément de sujets. On est une petite équipe de 15 employés, mais avec énormément de bénévoles qui sont généralement experts sur des thématiques bien précises. Et alors, si je veux être complète, je peux aussi ajouter qu'on a des sections locales à Namur, à Liège, à La Louvière et très bientôt à Charleroi, ce qui est super chouette. Donc ça, c'est aussi des citoyens bénévoles qui décident de s'engager localement en organisant des activités, des débats et tout ça avec les citoyens de leur commune. C'est plutôt une belle association qui fait un chouette travail. Enfin, évidemment, je ne suis pas neutre, mais je trouve. Et donc, actuellement, on était rue du Boulet, qui est à 1000 Bruxelles, pas très loin d'ici non plus, mais on était dans des bâtiments assez vétustes qu'on louait. Et donc, on avait envie depuis déjà très longtemps d'avoir des bâtiments à nous, parce que ça permet quand même une pérennité et une sécurité beaucoup plus grande que d'avoir une location. Et donc, l'idée, ce n'était pas seulement d'avoir des bâtiments, mais surtout de créer en fait une maison des droits humains. Et donc, la maison des droits humains, elle ne va pas accueillir seulement la Ligue, mais aussi la Liga voor Mensenrechten, qui est notre équivalent flamand, parce que nous, j'ai oublié de vous préciser qu'on travaille exclusivement en Belgique francophone. Donc la Liga travaille en Belgique néerlandophone. Et il y aura aussi dans la maison la FIDH, qui est la Fédération internationale pour les droits humains, qui a son siège européen à Bruxelles. Et donc voilà, ce sera la première fois qu'un espace sera exclusivement dédié à la protection des droits fondamentaux en Belgique. C'est 53 boulevard Léopold II, c'est un espace qui est quand même assez grand. Et ce qu'on y fera, y aura nos bureaux, il y aura pas mal de salles de réunion. Et il y aura, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y aura en bas une grande salle polyvalente qui permettra d'accueillir le public pour les formations, pour les réunions avec un peu plus de gens, pourquoi pas pour des projections, pour des débats. Puis il y a une petite cour. Et il y a aussi un accès PMR. Donc ça, c'est vachement bien, parce qu'on pourra accueillir vraiment tout le monde dans la maison des droits humains.
Moi, j'ai une petite question. Les missions du coup, de la Ligue des droits humains sont assez larges. En déménagement dans un quartier comme Molenbeek, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'un ancrage possible dans le quartier, est-ce que c'est dans ses missions, finalement, une association comme la Ligue des droits humains, de s'ancrer dans le quartier? Et est-ce que c'est possible d'avoir un ancrage territorial, finalement?
C'est un quartier assez compliqué. C'est pas un quartier simple ici. On a essayé de s'ancrer, nous, et on n'a jamais vraiment été bien accueillis, n'est-ce pas, Malik?
C'est pour ça que la table est pleine aujourd'hui.
C'est pour ça aussi qu'il ne part pas. Il est toujours là.
Exactement.
Molenbeek, c'est chaud quand même.
Hein. Ouais, c'est chaud, ça a l'air chaud.
C'est chaud, c'est chaleureux.
On atteste les sourires autour de la table. C'est vrai que là où on était actuellement, ça n'a pas forcément été une de nos priorités de s'encadrer, de s'ancrer territorialement. Après, je pense que ça pourrait être un chouette projet, surtout par rapport aux formateurs de la Ligue et à toutes les activités qu'on organise avec des citoyens. On organise aussi, par exemple, des balades récemment sur la vidéosurveillance dans l'espace public. Mais je pense qu'il y a nombreuses de nos activités qui pourraient être développées avec cet axe-là, avec des partenariats avec, par exemple, les maisons de jeunes quand on fait des formations sur les droits face à la police, avec les citoyens du quartier qui seraient intéressés de faire des balades sur la vidéosurveillance. Donc, je ne sais pas si ce sera une priorité, parce que ça, ce n'est pas à moi de le déterminer, parce que je suis chargée de communication, ça, j'ai oublié de préciser. Mais en tout cas, je pense que oui, ça pourrait être quelque chose de vraiment chouette à développer en fonction des sujets et des intérêts aussi des ASBL et des collectifs citoyens. Parfois, on fait aussi du soutien à des mobilisations au conseil communal. On l'a fait à Saint-Gilles, à Forêt. Donc ça pourrait être chouette aussi s'il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble et soutenir des habitants. En effet, ouais, ça pourrait
J'ai
être des projets.
Ouais. Par exemple, la promenade là, pour regarder les vidéos là, est-ce que c'est légal? Est-ce que vous n'allez pas avoir des reproches quoi de la commune ou quoi?
C'est une très bonne question, mais les balades qu'on fait sur la vidéosurveillance, c'est vraiment, on fait en petits groupes. Bon, là, avec les mesures sanitaires, on a dû un peu les arrêter, mais c'est tout à fait légal parce que c'est un peu comme une balade touristique, quoi. Sauf que l'angle, c'est, tiens, on est surveillé par des caméras, pourquoi, qu'est-ce que ça coûte, à quoi ça sert, quels sont les arguments politiques derrière. Et donc, ouais, ça, heureusement, c'est tout à fait autorisé de questionner ce qu'il y a dans l'espace public.
On ne sait jamais maintenant. Parfois, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas et qu'on ne sait pas.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent se plaindre pour du racisme ou de, je sais pas, quelque chose qui... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent se plaindre? Est-ce qu'ils peuvent venir aussi se plaindre chez vous?
C'est une très bonne question aussi. Alors, en fait, on a une travailleuse sociale qui fait des permanences téléphoniques tous les matins. Et donc, et on a aussi une adresse mail à laquelle les gens peuvent écrire. Donc, ils peuvent adresser leurs demandes, leurs questions à cette travailleuse sociale, mais elle va surtout les orienter vers des associations ou des institutions compétentes. Et nous, en tant que Ligue, vu qu'on est une petite équipe, on ne prend pas en charge, généralement, à moins qu'on puisse vraiment tirer un intérêt collectif d'un dossier, sinon on ne prend pas en charge des dossiers individuels, mais... Tant qu'on peut, on essaye de répondre aux questions et d'aiguiller les personnes. Mais c'est plutôt par téléphone.
Vous ne faites pas de rapport, donc vous ne faites pas de rapport de la personne qui vient, par exemple, se plaindre qu'il a été tabassé ou qu'il a eu des problèmes de racisme et tout ça, d'embauche d'emploi ou de louer un appartement, par exemple.
Oui.
Donc c'est tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut venir chez vous et dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça que...
En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est appeler par exemple la Ligue pour le signaler. Donc vous pouvez appeler ma collègue. En cas de violence policière, on a aussi créé un numéro de téléphone que je pourrais peut-être partager après, je ne sais pas, ou maintenant, tant que j'y suis, si je l'ai sous les yeux.
Ouais.
Du coup, par rapport aux violences policières, on a créé une permanence téléphonique tous les lundis de 10h à 13h et les jeudis de 15h à 18h. Est-ce que je donne le numéro ?
Tu peux.
Ouais. Donc c'est le 02 731 33 13. Et donc cette permanence téléphonique, elle est là pour écouter et pour orienter toutes les personnes qui auraient eu des problèmes avec la police. Donc là, ce qu'on va faire,
pas
c'est...
Pas seulement la police.
Dans le cadre de cette permanence-là, oui, c'est seulement la police. Mais par contre, si vous avez un problème autre qu'avec la police, vous pouvez appeler ma collègue travailleuse sociale le matin. Mais donc pour répondre à votre question... On va orienter, on va récolter les propos, on va peut-être, si au cas par cas, de temps en temps, une mobilisation conjointe sera possible avec un partenaire. Par exemple, hier, on a eu une très belle victoire avec UNIA, qui est un institut fédéral que vous connaissez.
La STIB.
Voilà, exactement, sur un dossier d'une, d'une femme qui avait été discriminée à l'emploi parce qu'elle portait un foulard. Donc voilà, ça, c'est un dossier que la Ligue a porté, par exemple, et il y a eu une très belle victoire, donc ce qui est super. Donc voilà, mais ce sera vraiment au cas par cas, donc... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, non,
très bien,
ça.
Tout à fait. Okay. Merci.
Vous pouvez toujours appeler M. Patrick aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Cela dit, pour les violences policières...
Dans le micro, Monsieur Patrick, c'est voilà, toujours mieux parce que c'est de la radio.
Mais je ne sais pas déplumer Malika.
Non. Oui, aujourd'hui, vous êtes obligé de partager un micro. Mais ça vous rapproche.
Dans le cas des violences policières aussi, parce que j'avais téléphoné à mon frère, au sein même des zones de police, il y a un service qui est chargé de recevoir les plaintes concernant les actes limites, on va dire, de la police.
Ce qui est toujours un peu compliqué, évidemment.
Mais malheureusement, ça n'aboutit jamais. Il y a des plaintes.
Ce que je vous propose, peut-être, c'est... On a interrogé un jeune la semaine dernière qui a été victime, effectivement, de bavures policières. On l'a interrogé, donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter son témoignage, et puis ça viendra nourrir notre conversation, j'imagine. Ça vous va ?
Merci.
Merci, Noé.
C'était vers 22h30, exactement. Je descendais d'un parc, moi et mon ami. On descendait d'un parc et on voit une camionnette venir vraiment en bombe. Elle accélérait et voilà, on a pris peur, on a couru. On court et... Je me suis fait interpeller, moi et mon ami, avec plusieurs unités. Mais on n'avait rien à se reprocher, il était 22h30. Et logiquement, on peut encore rester vers 22h30 dehors. Et c'était plusieurs quand même, c'était une dizaine de voitures. Et moi, j'ai rigolé parce que je me suis dit, disant, arrêter un jeune, autant de voitures. Et je me suis dit, oh, je suis un mafieux ou comment ça se passe? Et voilà, moi, j'ai cru qu'ils allaient nous arrêter simplement. Mais je vois des insultes, des petits coups. Une petite tarte ou deux, voilà, c'est normal, je sais pas. C'est quand même bonjour. Et ça finit au commissariat, comme d'habitude. Sans rien, on est resté une bonne heure ou plus, et voilà, on est sorti. Ça me fait rire, parce que je me dis, c'est des gens qu'on leur donne du pouvoir, mais ils n'utilisent pas ce pouvoir dans le bon sens, ils l'utilisent au mauvais sens, hein. Moi, je dis pas que la police, c'est des mauvaises personnes, parce que dans chaque métier, il y a des mauvaises plantes, comme on dit. Et ben voilà. Mais nous, plus on voit les mauvaises que les bonnes. C'est pour ça que pour nous, la police, c'est des mauvais. Et voilà. Dans tous les quartiers, en fait, il y a des bavures. Moi, c'est pas souvent. Des fois, je suis tombé sur des bons flics, petit contrôle, on rigole, quelques blagues, voilà, on rentre. Mais voilà, il y a certains qui abusent de leur pouvoir, et c'est ça qui nous dérange. Voilà quoi, c'est une histoire comme les autres, on vit le jour, hein. Mais voilà, c'est des personnes, je me dis, ils le font ça à nous, mais ils veulent pas qu'on leur fasse ça. Et voilà, c'est ça que je me dis, c'est tout, c'est des personnes qui ont un petit gilet pare-balles, un petit flingue, qui se croient les héros du monde. Ça, c'est la première fois qu'il m'est arrivé cette histoire, vraiment, mais... Ça m'a déjà arrivé d'aller au commissariat, après il me disait allez dégage, ou avant le commissariat il me dépose, il me dit allez vas-y bouge, ou il me frappe. Les bavures, on entend de plus en plus, on dirait c'est obligé de faire une bavure maintenant. Ça c'est logique, hein. Il voit un arabe, en plus ce jour-là j'avais mis boule à z, j'ai coupé tous mes cheveux, j'avais une cicatrice, il se dit lui on va pas le rater. Hein. Mais je sais pas si c'est un critère que la police demande de contrôler, je sais pas, mais voilà c'est plus souvent nous que voilà, des petits des petits gens pâles, des yeux bleus, ça c'est... Voilà, ça se dit pas ça, mais voilà, c'est... dans ce monde c'est comme ça.
Qu'est-ce que t'attendrais de la Ligue des droits humains? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer ça?
Je sais pas, d'évaluer les policiers, pourquoi ils font ça, je sais pas, leur poser des questions, ou... éliminer certains, dire tout, t'as fait ça, tu dégages, t'as pas ta place ici. Déjà, moi je leur conseille de ne pas rester dans leur bureau, de faire de la paperasse, tout ça sert à rien. Moi je dis si c'est possible dans leur projet, ils rentrent dans un commissariat et disent ok, aujourd'hui on va être avec cette unité, on va rester avec eux comme un. Ça existe ça, c'est en Amérique, ça s'appelle comment? Un conseiller civil. C'est qu'en fait il reste avec un enquêteur, des fois il reste avec un inspecteur, il est juste civil, il peut rien faire, mais il reste avec lui au cas où qu'il y a ça. C'est une très bonne démarche, il reste avec des unités, et voilà, il voit leur routine, et voilà. Les droits humains, ils sont écrits sur des papiers, mais ils ne sont pas pratiqués ici en Belgique et aussi en dehors de Belgique, dans les pays étrangers et tout. Ils ne sont pas respectés. C'est des droits qu'on dit, que le gouvernement nous dit « Ah oui, on fait ça », mais il n'y a aucun agissement.
Alors Camille, est-ce que vous allez faire comme les Américains?
Bonne question. Mais déjà, merci pour le témoignage parce qu'il était vachement percutant. Enfin, je pense qu'il est assez représentatif de ce qu'on entend beaucoup, quoi. Donc c'est clairement pas un témoignage isolé, c'est quelque chose qu'on entend de beaucoup, beaucoup de jeunes à Bruxelles, surtout des jeunes racisés de certains quartiers en particulier. Et donc malheureusement... Police Watch, donc l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains, n'a pas le pouvoir de, par exemple, de virer un policier, n'a pas le pouvoir de prendre des décisions dans l'institution policière. Ce qu'on peut faire, c'est dénoncer, c'est recueillir des données et c'est faire du lobby politique, surtout pour que le problème des violences policières, qui n'est pas juste un policier de temps en temps, qui est vraiment un problème systémique, comme on dit, donc qui est un vrai problème dans l'institution policière, soit reconnue. Et ça, c'est le travail qu'on essaye de faire. Mais après, on peut faire ce travail de sensibilisation, de lobby, mais on ne peut pas devenir des officiers civils et aller à côté des gendarmes. Non, ça, c'est pas dans nos projets. On n'a pas le droit.
On laisse ça aux Américains, alors.
Ouais.
Il y a plusieurs...
Juste un petit exemple que j'ai écouté ce matin à la radio. Dans la boum, il y a un jeune qui est jugé aujourd'hui, qui a 23 ans. Mmh. Il y a les vidéos et tout, qu'il a lancé des bouteilles sur la police et tout. Il va écoper de travaux d'intérêt général, il ne va pas être puni pratiquement du tout. Mais retournons l'histoire. Si c'est un du quartier de Molenbeek, un Nord-Africain ou quoi, à ce moment-là, vous pouvez regarder les juges combien il va être condamné. Ça va être vraiment des voyous, on va les traiter de tous les noms possibles, et il va être jugé un maximum. Il y a quand même deux poids et deux mesures. C'est ce que j'ai entendu. Ce que je vois, ce que je constate. Mmh. Voilà, comme maman, si c'est mon fils, c'est la catastrophe, quoi. Mmh. Et surtout quand on entend des trucs comme ça, ça me révolte parfois.
Mmh. Ouais,
vraiment, ça me révolte.
Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Bah oui, on sent vraiment un traitement discriminé de la population.
La discrimination totale.
C'est clair. Vraiment. Puis à l'inverse, on constate aussi beaucoup d'impunité chez les policiers. Donc je veux dire, si c'est le policier qui avait lancé la bouteille, on n'est pas tout à fait sûr de ce à quoi ça aurait abouti.
Donc, est-ce qu'il y a une sorte de comptabilisation de ce qui se passe au niveau de la police, des actes de violence qui sont commis par la police? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des statistiques?
En fait, il y a
sont publiques.
Il y a le comité... Je ne sais pas si on m'entend.
Pas tant que ça.
Il y a le comité P, donc qui est une institution fédérale qui est chargée normalement de récolter des chiffres. Donc en fait, il y a des chiffres qui existent, mais ces chiffres sont totalement faussés parce que qui va vraiment aller porter plainte à la police, sur quelles données sont basées ces chiffres, sur quels travaux. Nous, en tant que Ligue, on est vraiment pas du tout convaincus par la fiabilité de ces données-là. Donc.
Et les moyens de recours qu'on a en tant que citoyen normal, c'est donc via cet appel, ce numéro de téléphone que dont vous avez parlé. Mais il doit y avoir d'autres moyens, non ? D'autres moyens de recours qui sont
possibles. Oui, nous, en fait, le numéro de téléphone de PoliceWatch, ce n'est pas un moyen de recours. C'est un endroit où vous pouvez recevoir des conseils. Mm-hmm. Pour vraiment porter plainte, il faut aller vers la police.
Ah, donc, ok. Vers la police même.
Oui. Ouais, ouais.
Avec un avocat.
Honnêtement, là, je suis pas tout à fait experte, donc je sais pas si vous êtes obligé d'avoir un avocat. Mais
Non, tu es pas obligé d'avoir un avocat pour aller porter plainte.
Tu
vas porter plainte. Le seul truc qui est bizarre, c'est que tu vas porter plainte chez des policiers contre des policiers.
Ça, donc exactement. Pas très efficace.
C'est juste. Je pense qu'il y a des moments, il y a des fois où c'est efficace. C'est juste que c'est le pas qui est compliqué.
Ouais.
Tout dépend aussi du niveau de d'agression que tu peux subir. C'est parce qu'il y a des récits qui sont, il y a des petits délits qui sont inexcusables. Après, on entend beaucoup de récits de violences policières qui sont très très graves. Et là, les gens ont du mal à retourner dans un commissariat. Enfin, c'est la première chose que tu fais, c'est fuir le commissariat où tu as été enfermé la nuit sans aucune raison. Enfin, tu pars et tu n'as plus envie de revenir dans n'importe lequel des commissariats. Ça, c'est.
Tu parles de.
D'expérience. Pas personnel, mais ouais, autour de moi, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est un sujet qui est très très compliqué parce que moi je sais même plus qui par exemple est compétent pour la police. Qui est le chef de la police dans le c'est le bourgmestre en général. C'est ça.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a une police fédérale? Oui, il y a aussi une police fédérale.
Ouais, tout à fait.
Et tu vois, tu sais jamais qui est ton agresseur. Est-ce que c'est dans le cas d'une manif, on fait venir la police fédérale parfois? Je sais pas. Tu vois, c'est des choses qui sont c'est aussi très compliqué de s'y retrouver, hein.
Ouais.
Je me tourne vers monsieur Patrick qui sait tout. Mais sur ce coup-là, il ne peut pas aider.
De toute façon, je pense qu'une plainte, où qu'elle soit déposée, doit être suivie, que ce soit dans un commissariat de quartier ou à la police fédérale. Il y a un suivi de la plainte déposée. Et elle ne peut pas, peut-être, je pense que la plainte déposée ne peut pas être retirée.
Ouais. L'autre truc, évidemment, c'est que c'est très lent.
Ouais.
Parce que entre le moment où tu déposes une plainte et le moment où on vient te dire que les choses avancent, il peut se passer des mois, des années. Enfin, c'est aussi un problème de lenteur dans ces dossiers-là, ça c'est sûr.
Ce que je trouve assez problématique aussi, on l'entendait dans l'interview et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire aussi, Thibaut. C'est bien ça. C'est que en fait, les citoyens ont des droits face à la police. C'est vraiment important de les connaître. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont expliqués sur le site de PoliceWatch. Par exemple, un des droits aussi, c'est que les policiers soient toujours identifiables. Un des droits, c'est de pouvoir prendre des photos de la police. C'est tous des droits hyper importants qu'il faut connaître, mais qui malheureusement sont souvent bafoués. Donc, c'est difficile parfois de devoir apprendre, par exemple, aux jeunes leurs droits, alors que comme il le disait très bien dans son témoignage, il sait que de toute façon, ces droits vont être piétinés. Et donc, voilà. En tant que Ligue, on essaye de plus possible de sensibiliser les citoyens à leurs droits, mais ce qui n'est pas facile, c'est de constater que souvent, ils ne sont pas applicables en pratique. Donc voilà, c'est assez compliqué.
Je pense que le délégué général aux droits de l'enfant, lui, il est aussi pour la caméra qu'on met sur les policiers, je pense. Parce qu'en Belgique, ce n'est pas le cas. Tous les policiers n'ont pas ça. Je sais pas.
Les bodycams, ça commence tout doucement à se développer. Il y a de plus en plus de communes qui se dotent de bodycams, mais en fait, il n'y a pas du tout de cadre légal qui a été construit. Donc ça, c'est quand même assez problématique. La Ligue va bientôt partager une position, justement, par rapport à ça.
La Ligue est plutôt...
Il y a un certain nombre de balises qui doivent être respectées et... OK, dans ces conditions, mais si ces conditions ne sont pas respectées, alors non. Et donc, c'est de nombreuses conditions qui, pour l'instant, comme on le voit, ne le sont pas. Par exemple, notifier quand on commence à filmer. Il y a la grosse question surtout de l'accès aux images. Ouais. Finalement, qui pourra y accéder, les policiers ou les victimes? Enfin, donc voilà, il y a tout un cadre comme ça qui doit être fixé, un cadre légal qui ça doit être discuté au Parlement. Enfin, ça doit être compris par les citoyens. Et là, pour le moment, c'est un peu fait... En stoum comme ça, par-ci par-là, dans des zones de police. Et on apprend dans la DH que la police de Nivelles est dotée de caméras de surveillance. Enfin voilà. Donc il y a quand même un peu un problème avec ça qui doit être discuté.
Tu parlais du délégué aux droits de l'enfant. Je crois que hier, Clémentine est allée au Merlot. nous a fait un petit tour de table.
Tu crois ou tu es sûr? Parce que je trouve qu'il y a une sorte de flou sur le programme des employés du Xara ici.
Pour tout te dire, Thibaut, j'ai une oreillette et la régie me communique effectivement que ce reportage est disponible.
Clémentine est bien allée dans le logement social au Merlot hier.
Donc, qu'est-ce que tu leur as fait faire aux enfants au Merlot hier, Clémentine?
Eh ben, l'idée cette fois-ci, c'était un peu de discuter avec eux des droits de l'enfant et de voir ce qu'ils connaissaient des droits de l'enfant. Et on a eu pas mal de débats qui n'ont pas toujours voulu enregistrer. Mais on a quand même un petit tour de table ici sur ce que c'est les droits de l'enfant. Et on aura une autre petite capsule après. Voilà.
Mais pas de spoil, Clémentine, non. S'il te plaît. Sinon, tous les auditeurs vont s'en aller.
D'où la petite capsule après, trois petits points. Bon.
Je vous propose qu'on écoute cette capsule et on revient juste après.
C'est quoi les droits de l'enfant?
Moi, d'abord, les droits d'enfant, je ne sais pas ce que c'est. Je voudrais bien apprendre. Et de ce que j'ai entendu parler, il y a une fête en rapport avec ça.
Je ne sais pas ce que c'est les droits de l'enfant et je voudrais bien apprendre.
Je crois que je le connais un peu. En fait, le droit de l'enfant, c'est quand on a le droit de faire quelque chose quand nos mamans ou mon père me dit « Tu peux aller jouer ?» Et là, c'est ça le truc de l'enfant.
Le droit de l'enfant, c'est par exemple quand on a le droit de faire quelque chose. Pas vraiment quand, par exemple, on ne peut pas faire des bêtises ou faire quelque chose d'autre de mal. On ne peut pas se disputer, frapper, dire des gros mots.
Moi, je connais pas les droits de l'enfant.
Je connais pas les droits de l'enfant.
J'ai 7 ans, je connais pas les droits de l'enfant.
J'ai 9 ans, je connais pas les droits de l'enfant.
Je suis en première secondaire, je connais pas les droits de l'enfant, j'ai envie d'apprendre ça.
Moi, j'ai appris les droits de l'enfant à l'école. Par exemple, j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai le droit d'avoir une famille, j'ai le droit d'avoir des amis.
Je sais pas c'est quoi les droits de l'enfant, j'ai jamais appris à l'école.
J'ai appris les droits de l'enfant à l'école, maintenant je suis en 6e. Et j'ai aussi appris en 5e, 4e et 3e.
J'ai appris ça à l'école, mais c'est quoi ça?
J'ai appris les droits de l'enfant à l'école. J'ai le droit de jouer. J'ai le droit d'être en bonne santé, c'est pour ça que je suis en bonne santé.
Nous, quand on est enfant, on ne peut pas être tapé. Et si on fait ça, on peut être protégé.
Si ce sont les droits d'enfants, ben pourquoi ce n'est pas les enfants qui le choisissent en eux-mêmes? Si c'est les droits des enfants, ben c'est les enfants qui choisissent leurs droits.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique.
D'accord. Alors, c'est une bonne question, ça, posée par Imrad, il me semble, qui nous dit finalement pourquoi c'est pas les enfants qui écrivent les droits de l'enfant. Bonne question. Et j'en serais bien incapable d'y répondre pour ma part.
Mais je pense qu'ils sont amenés régulièrement via les délégations des droits de l'enfant un peu partout. Ils sont amenés à participer, ouais. Et en tout cas, d'ailleurs, nous, on collabore régulièrement sur des projets avec le délégué général des droits de l'enfant qui donne la parole aux jeunes et à faire des recommandations, en tout cas, dans différents pays européens. Donc, voilà, je crois qu'il y a un travail qui va vers ça, je dirais. Mais si après, tu donnes la parole aux enfants pour qu'ils définissent leurs droits, où est-ce qu'on va? Il faut aussi être un peu rationnel. Non, oui. On ne peut pas non plus tout leur laisser faire.
Moi, je voulais savoir... Donc dans les écoles, ils ne font pas une sorte d'activité sur les droits de l'enfant. Parce que je suis un peu étonnée, donc moi, dans mes groupes, chaque année, donc la journée des droits de l'enfant, je fais une petite activité avec les groupes d'Alpha. Et donc, je leur dis tous les... Enfin, j'imprime tout ça sur Internet et tout ce qu'il y a pour les droits de l'enfant. Et elles sont étonnées. Si je dis elles, c'est toutes des femmes que je donne des cours. Et elles sont étonnées ce qu'elles apprennent, quoi. On ne savait pas, on ne sait pas. C'est pour ça que je suis étonnée que dans les écoles, que ce soit en primaire ou en secondaire, on ne donne pas des cours sur des infos plutôt sur les droits de l'enfant.
Ben, apparemment, donc là, dans le petit reportage, il y a l'un ou l'autre enfant qui a précisé justement qu'ils avaient appris ce que c'était à l'école. Oui. Mais souvent, ils ne s'en souviennent pas, quoi.
Oui.
Du coup, ça, c'est une
mais
chose.
Pas tout le temps. Hein.
Pas tout le temps. Mmh. Et en tout cas, moi, je ne me souviens pas avoir appris ça à l'école. Voilà, quoi. Mais à mon avis, ça fait partie d'une sorte de nouveau programme. Oui. Il y en a qui ont dit quand même des trucs pertinents. J'ai le droit de jouer, j'ai le droit au loisir. Oui. J'ai le droit d'être en bonne santé, de ne pas être violenté par quelqu'un d'autre. Mmh. Donc voilà, il y a
à l'école et tout ça.
Ils ont quand même dit des choses pertinentes.
Oui, franchement.
Moi, je pense que Bernard DeVos, il va dans les écoles, justement, discuter de tous ces droits des enfants. Mmh. Je sais qu'il passe dans les écoles pour expliquer un petit peu.
Dans son équipe, il y a plusieurs personnes qui sont là pour ça.
Ils vont dans les écoles. Je sais que je les ai vus une fois à l'école où je travaille, qui sont venus justement expliquer les droits de l'enfant.
Est-ce que les enfants peuvent aller à la Ligue des droits humains pour reporter une...
Ils peuvent,
parce que le délégué est là pour ça, évidemment, mais je ne sais pas si la Ligue...
En tout cas, c'est vrai que pour les droits de l'enfant, je conseillerais plutôt de se diriger vers Bernard DeVos ou ses collègues. Évidemment, ils peuvent appeler le numéro s'ils sont à l'aise avec un téléphone. Ils peuvent aussi nous écrire un mail ou une lettre.
Ils ont tous des téléphones.
Oui, en tout cas des iPads. placement de produits. Ils sont en tout cas très à l'aise avec les technologies. Nous, on organise certaines formations aussi, plus spécifiquement pour les enfants. Par exemple, une formation sur la migration, pour expliquer un peu ce que ça veut dire et quel droit ont les personnes migrantes. On organise sinon plutôt des activités avec les publics un peu plus, pas enfants, mais adolescents, genre 15-18, sur l'argumentation dans les écoles. Et là, on leur apprend à débattre et à prendre la parole en public en argumentant sur des sujets de société souvent liés aux droits humains. Donc voilà, on fait des choses avec les jeunes. S'ils veulent nous contacter, c'est évidemment avec grand plaisir, mais c'est vrai que ce n'est pas notre spécialité.
Mais après, si je ne m'abuse, peut-être Thibaut, tu pourras me contredire, les droits de l'enfant sont similaires aux droits des adultes. Il y a juste que les enfants, vu qu'ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas toujours à même de prendre des décisions, ont plein d'autres droits. Mais donc, a priori, après, du coup, vous n'êtes pas spécialisé dans ceux qui sont spécifiques aux enfants.
Oui, c'est ça. Et je pense aussi qu'il y a certaines choses qu'on accorde pour des adultes, pas pour des enfants, par exemple l'enfermement. Ou des choses comme ça. Et ça, évidemment, on y travaille aussi contre l'enfermement des enfants, évidemment. Oui.
Allez, est-ce que je peux proposer de faire une petite parenthèse sur la thématique qui nous occupe, parce que Rama doit partir.
Ah, Rama, tu dois t'en aller.
Je dois aller travailler.
Elle doit partir dans 10 minutes.
Ok. Voilà, Thibaut, interception, tu as raison. Alors,
Je voudrais, Rama, que tu nous fasses un petit point et on donnera la parole aussi à Romain. Parce que vous êtes comme une sorte de package pour moi aujourd'hui dans cette émission, Romain et Rama. Et en plus, vous avez des prénoms qui se rapprochent. Park Farm, ça reprend, Rama?
Oui, bien, normalement demain déjà. Non, pas demain. Samedi, c'est l'ouverture. Étant donné qu'on peut ouvrir les terrasses, ça sera le moment des ouvertures. Vous êtes tous les bienvenus à Park Farm pour déguster plein de bonnes choses et plein de nouvelles bières aussi, je dois le dire aussi, bien sûr.
Avec modération, monsieur
avec
Patrick.
Avec modération, voilà. Et surtout, moi, je vais parler surtout de toutes les activités que je fais à parfois. Par exemple, le mercredi, on est un groupe d'habitantes ici du quartier qui vont jardiner. C'est des femmes. Mais on a des hommes aussi, voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent aussi participer, ils sont les bienvenus. On a toute une parcelle avec plein d'herbes aromatiques, un peu de légumes. Et avec ces herbes aromatiques, on fait aussi de la transformation.
Ouais.
On fait du dentifrice, on fait des huiles essentielles, on fait par exemple des sels aromatiques, des thés, plein de bonnes choses. Et aussi, on sensibilise un petit peu les gens pour consommer local, le moins possible de déchets, ça aussi. Et en plus, alors, il y a encore des ateliers de cuisine du monde. C'est deux dimanches par mois. Et c'est chaque fois une personne d'un pays différent qui vient nous proposer sa recette. Okay. Et c'est aussi quelque chose de magnifique. On passe des matinées et des après-midi magnifiques à Park Farm. Alors, il y a aussi le mercredi après-midi des activités avec les enfants. Que Yolande, qui apprend aux enfants un petit peu comment semer, comment expliquer sur les plantes, tout ce qui est sur les plantes. Voilà.
Très bien.
C'est à quelle heure, excuse-moi, Rama, c'est à quelle heure samedi? Samedi à partir de 14h.
14h, ok, merci.
Voilà. Et il y a aussi un verger partagé que les habitants ont planté, une dizaine d'arbres fruitiers. Aussi, il y a plein de fruits pendant que c'est le moment. Voilà.
Alors justement, tu fais la transition parfaite vers le travail de Romain, puisque Romain, il est responsable, en tout cas, il est co-responsable de l'émission Radio Marie-Christine. C'est ça ?
C'est ça.
C'est plus ou moins la même chose que Radio Maritime. C'est une radio de quartier, très centrée sur, du coup, une rue, ou en tout cas le quartier de la, ouais, de la Queune, quoi.
En tout cas, on est voisins.
On est voisins, oui.
C'est la première chose. Il y a le parc Farm entre nous.
Entre nous,
c'est ça. Qui nous relie, peut-être.
Rama nous lie,
ouais,
quelque voilà, part.
Avec Romain.
Ouais.
Et Romain aussi, il est le bienvenu chez nous aussi.
Ah oui, mais... Ouais, on...
Et Romain, il est venu souvent. Hein. Venu souvent.
Ouais, ouais, je passe. ouais, c'est ça. On est aussi une radio de quartier, ouais. On est voisins, on est frères, on est cousins, on est.
Il y a un truc, quoi.
Voilà, quelque chose, quoi.
Et ben, en fait, puisque tu parlais d'arbres fruitiers, nous, il y a un son que Romain nous a envoyé il n'y a pas très longtemps. On dit ouais, regardez, ça c'est cool, et on va le diffuser. C'est un son sur une lutte citoyenne, des gens qui veulent défendre un figuier, je crois, c'est ça.
Bah ouais, enfin, ils voulaient plus le défendre parce qu'il venait de se faire couper la tête. Non, ouais, c'était plutôt un hommage en février, parce que ça a marqué un peu. C'est justement dans le vieux jardin Tour et Taxi, donc c'est juste entre nous comme ça. Et donc Molène Bécois, la Quenois, qui passe et qui travaille ou qui prennent du temps dans cet espace, étaient un peu tous et toutes amoureux, amoureuses de cet arbre. Moi y compris, hein, parce que j'allais souvent me faire un petit sandwich là-bas. Et donc il y avait un... Ouais, il y a eu un moment de recueillement quasi...
Ouais, c'est très solennel. Ouais.
Ouais.
Bon, on va écouter.
Une ode au figuier, donc.
Ode au figuier de Radio Marie-Christine.
C'est un moisson de figuier. Okay. J'imagine qu'il était très beau.
C'était un grand figuier. C'était.
Deux doigts. Il nous reste deux doigts.
Bonjour.
Donc là, ils ont commencé ici, donc ils ont coupé nos pommiers, ils ont juste coupé la tête.
Ça, c'est vraiment incroyable.
Et puis après, ils ont continué là.
Non.
Ça nous a fait mal, je vous assure. Ça nous a fait saigner, quoi, à l'intérieur.
Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entreprise prétend que les arbres gênent leur caméra de contrôle. Ils sont venus à 9h du matin et ils sont rasés, même là où la caméra, parce qu'ils sont rasés jusqu'au fond du jardin. Là, il n'y a rien comme caméra. Et puis, ce n'est pas non plus la limite avec eux. Donc, c'est un acte de vandalisme, quoi.
Homme, je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale. Et au plus fort de l'été, l'ombre fraîche sur ton toit. Je suis le lit de tes sommeils, la charpente de ta maison. La table où poser ton pain, le mât pour ton navire. Je suis le manche de ta houe, la porte de ta cabane. Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil. Le matériau de tes œuvres et la parure de ton univers. Écoute ma prière, ne me détruis pas.
Oh oui, je crois que c'est un Indien qui a écrit ça. Je trouve que ce serait bien de mettre en grand sur un mur. Tu vois, on pourrait peindre le mur de Loomis, hein, et marquer ça, quoi. Ça, c'est un truc qui t'interpelle à fond. Hein. Pour moi, j'aime beaucoup ça.
Oui, non, c'est bien. Non.
Oui, il y a la destruction du figuier, qui était notre arbre emblématique. Mais... Il y a 7 pommiers, il y a des quantités, il y a 2 pommiers, on ne les trouve plus. Des vieux pommiers. Donc, et c'est une partie de la mémoire du quartier aussi, parce que tous ces vieux arbres, c'était les ouvriers immigrés à Bruxelles qui les ont laissés, qui avaient ici un jardin ouvrier, et qui nous l'ont laissé dans la mémoire du quartier, la mémoire de la ville.
Parce que je ne savais donc, pas que ça existait en fait. J'étais toujours venue en bas, mais je suis jamais montée ici. Je crois que ça s'est arrêté là, l'escalier.
Mais aussi, c'était un jardin collectif qui a été mis en place en 2007 par le début des haricots. Ouais. Donc c'est et même avant, dans les années 90, c'était aussi un jardin potager ouvrier. On l'a découvert parce que quand on a refait le réaménagement en 2007, ici c'était la forêt vierge, c'était vraiment plein d'immondices et puis une nature jungle quoi. Et du coup, ils ont défriché, redessiné les parcelles et tout ça, on a découvert que les parcelles, il y avait déjà des parcelles qui étaient délimitées par des bouteilles retournées. Et c'est ces ouvriers qui avaient justement planté ce figuier qui a été abattu. C'était un monsieur qui est venu nous voir il y a quelques années, qui avait plus de 80 ans, et qui nous a raconté l'histoire de ce figuier, et qu'il avait ramené d'Italie, et qu'il avait planté là, je vous dis, il y a une trentaine d'années de ça, et qui était devenu majestueux, quoi, qui avait été classé, on l'avait fait classer arbre remarquable. En 2013, et il s'est avéré que d'après les mesures prises et tout ça, c'était le plus grand figuier de la région bruxelloise.
Mémoire du quartier. D'où viens-tu ? De l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, du Maroc. Qui t'a planté ? Maria, Pietro, Andreas. À toi tout seul, tu évoques notre histoire, histoire des gens qui viennent, des gens qui vont et qui nous partagent leur nostalgie. Nous ne voulons pas être nostalgiques de toi. Nous attendrons patiemment le printemps.
Tu sais que ma sœur a des photos magnifiques. Elle s'occupe de 100 jardins dans le nord de la France. Elle était venue, je lui ai fait venir ça. On a commencé à chanter la chanson de Mireille, Le petit jardin qui sent la noisette, tu vois.
Ah, oui.
Quand j'arrive ici, j'ai toujours cette chanson qui me vient à la tête. Elle disait, toi là, de retour à Bruxelles, le Bruxelles surprenant, loin du Manneken Pis et de l'Atomium. Et elle leur avait fait des photos magnifiques d'ici. Je trouve dommage, je trouve que d'année en année, ce petit jardin est attaqué de toutes parts.
Ben c'est ça.
Il y a eu
donc
d'abord
là,
oui.
Là, on se dit que ça suffit. Et on voudrait que Extensa, aussi en tant que propriétaire, protège plus, avec le soutien des autorités publiques, soutienne et protège, donc referme pour le préserver du vandalisme et pour qu'une vie comme s'il se passait avant, une vie potagère, et il ne s'agit pas de le refermer pour un groupe d'habitants, mais il sera ouvert, il sera vivant.
On aimerait bien que ça devienne comme Parc Maximilien, bien barricadé, mais on n'aimerait pas que ça soit barricadé de la même manière. Vous comprenez ce que je veux dire ? On veut que ça soit
protégé.
On veut que ça soit protégé.
Mais oui, je viens promener en bas, voilà. Mais de temps en temps, je connais des gens qui cultivaient ici, qui travaillaient ici. C'est scandaleux. Ça fait mal au cœur. C'est des gens qui n'ont rien compris à la vie. Voilà, alors je viens par solidarité.
Eh bien, cette mémoire, elle est précieuse. Ici, c'est la mémoire de tout un quartier. Il faut venir ici au printemps pour voir la diversité et la richesse de ceux qui l'habitent. Eh bien, de l'insecte, de la petite insecte à la petite, au petit papillon. C'est un bonheur.
Voilà, nous, on a un sentiment d'être dépossédé de quelque chose de très, très important, très chéri. Aussi parce que, regardez, on n'a que des grues autour de nous. Donc c'est comme si on nous mettait chaque fois contre les murs.
Voyez-vous, si j'étais l'arbre, si j'étais à sa place, eh bien, je raconterais des histoires des fumeurs de joint, des buveurs, des ceci, des cela. C'est toute une vie. C'est vraiment une vie et des pièces de théâtre qui se font ici. Quel bonheur, c'est vraiment la joie de vivre de ce havre de paix.
Bonjour. Bienvenue. Ils voulaient nous enterrer, mais ils ont oublié que nous sommes des grès. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des grès.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique. 105.4.
Alors Radio Marie-Christine lutte pour le droit des figuiers.
directement, je dirais non, mais on a un peu, enfin, L'idée, c'est on a une forte idée documentaire. Voilà. Donc l'idée là, c'était un peu de faire un document radio sur ce moment, mais vraiment sur ce moment de recueillement. D'ailleurs, à la base, j'étais parti avec 3-4 enregistreurs, et pour moi, l'idée, c'était un peu de donner des enregistreurs aux gens qui étaient là et de faire une création collective, parce que c'est principalement ce qu'on fait sur Radio Marie-Christine. Pour le coup, c'était le 13 février, un samedi matin, il faisait très froid, j'étais très fatigué. Et puis aussi, il y avait une énergie dans le lieu qui était déjà très belle avec ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivaient comme ça des poèmes, il y avait des choses qui étaient accrochées dans les arbres. Il y avait beaucoup de discussions entre les gens. C'était un peu le premier moment aussi où les gens ressortaient là, début février. Imaginez qu'il y a 50 personnes qui sont passées dans la matinée. Il y avait un endroit où il y avait des photos, etc. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être en trop. Donc en fait, je suis plutôt allé filer un coup de main à récupérer du bois broyé pour refaire le chemin. Et puis voilà, j'enregistrais et je rencontrais les gens comme les gens se rencontraient. Donc voilà. C'est ça, c'est reporter documenter plutôt même le moment. Moi, j'étais très surpris par la quasi-absence de presse. C'est-à-dire qu'il y a Bruse qui était là, qui a fait un article. Mais en fait, chaque fois que j'ai parlé de ce fait-là à des gens, de cet arbre coupé, c'est absurde, quoi. C'est complètement inutile en plus de l'avoir coupé. Et tout le monde dit, mais pourquoi on n'entend pas parler ? Enfin, c'était un arbre classé, c'était... Et non, en fait, il n'y a pas de presse. Alors, je sais qu'il y a eu un dossier de presse qui a été envoyé, hein, mais la presse n'est pas allé voir plus loin ce qui se passait là, quoi.
En tout cas, c'est affreux.
Tu trouves ça affreux, Malika ?
Oui, non, c'est affreux.
Couper un figuier, c'est criminel ? C'est criminel, Malika ?
Oui, c'est criminel de couper comme ça un figuier, que justement, il a toute une histoire et tout ça, et qui était là pour tout le monde. Hein. Les gens venaient, ils trouvaient leur bonheur aussi avec cet arbre. Mais couper sans demander l'avis des habitants ou du quartier, moi, encore maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont coupé.
Mais personne ne comprend. Et quand tu dis que c'est criminel, c'est officiellement criminel parce qu'en région Bruxelles-Capitale, pour couper un arbre, même dans ton jardin, selon les essences, mais notamment un figuier, il faut demander une autorisation. Donc, tu n'as pas le droit. Donc là, voilà, par rapport au vieux jardin Tour et Taxi, il y a une plainte qui a été déposée par Extensa, qui gère le lieu, contre Loomis, qui est un transporteur de fonds qui a ces bâtiments-là et c'est leur caméra de sécurité. Il faut imaginer le truc, hein. C'est des caméras de sécurité qui sont sur leur mur arrière, qui fait 15 mètres de haut. Enfin, c'est pas des caméras de sécurité à l'entrée ou quoi, c'est des caméras de sécurité qui donnent sur, sur un espace vert derrière leur bâtiment. Enfin, c'est fou, c'est caméras de sécurité inutiles.
Ça paraît pas très légal non plus.
Non, d'avoir mis des caméras public, de sécurité, ça je sais
attention,
pas.
Attention, ils savaient pas. Ah, ça voilà. Heureusement qu'on a quelqu'un de la Ligue des droits humains.
On vous renvoie au site Natura 2000 pour la prison de Neder-Overenbeek, hein, qui a été ratiboisée avec tous les positionnements juridiques en faveur du site. Mais on a quand même tout désingué.
D'ailleurs, j'en profite de votre intervention, M. Patrick, pour peut-être vous donner la parole pour votre habituelle chronique. Pour rappel, M. Patrick est le seul chroniqueur rémunéré dans cette émission. Il est donc...
Je suis prêt à mettre mes comptes en banque sur la table pour prouver qu'il n'en est rien.
Eh bien, jingle. Preuve en est, c'est le seul à avoir un jingle.
Musicoteur Freud.
Illustration musicale d'un événement, d'un moment ou d'un état d'âme. Chaque semaine, Patrick Serin va piocher dans l'immense musicothèque mondiale.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes, asexuels, aromantiques, Patrick Juvet, maman, bonjour. Attendez un petit instant, je reprends ma respiration. Non pas qu'un policier US m'aurait labouré les cervicales pendant 15 minutes, mais pour n'oublier personne et pour ne pas risquer un procès, mon introduction est de plus en plus longue. Et aujourd'hui, cette longue introduction m'arrange bien parce qu'il y a 2 heures encore, je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir vous raconter, ni quelle musique écouter. D'ailleurs, à ce propos, vous les représentants de la Ligue des droits humains, pensez-vous que je puisse intenter un procès à une ASBL engagée socialement et politiquement, située à quelques pas d'ici, qui a en plus à pignon sur rue, qui abuse de mon corps semaine après semaine et qui refuse systématiquement toutes les propositions musicales que je fais et qui discrimine constamment un jeune chanteur français d'environ 70 ans qui écrit de magnifiques poèmes, Alain Souchon pour ne pas le nommer, qui me torture avec de soi-disant musique moderne. Croyez-vous que je puisse les faire condamner pour les amener à être plus ouverts et respectueux de l'autre, à savoir moi?
Vous avez un dossier très solide en tout cas.
Oui, mais j'ai des preuves, hein. Tout est enregistré. Je n'avais donc rien à dire en effet. Tout va bien dans le monde ou presque. Biden est toujours vivant après 100 jours. Trump n'a plus accès à Facebook. Et les sociétés pharmaceutiques vont mettre à disposition leurs recettes de vaccins à base de vitamine D, de gelée royale et de poudre de salse pareille. Ironie évidemment, humour désopilant. En effet, je crois bien plus que je n'avais rien à dire parce que j'avais l'impression d'être définitivement le David contre un Goliath surpuissant et cette fois-ci invincible. Le monde tel qu'il nous est présenté, tel que je le perçois, me fait sentir tout petit, fragile, impuissant, malléable à souhait, soumis à la volonté de l'un ou de l'autre, bref, une coquille de noix sur l'océan déchaîné. Je vous parle du Covid, évidemment, qui nous a confinés et déconfinés, comme on reprendrait sa respiration après 20 minutes d'apnée. Je vous parle de la dégradation du climat et des conditions de vie sur Terre. Je vous parle de ces missions spatiales qui s'organisent aujourd'hui comme on prend le métro bruxellois, et encore, je crois que ça doit être mieux organisé, des fake news, des cyber-attaques mondiales, j'en passe, et des meilleurs. Bref, en un mot commençant, mon humanité, mon individualité est bousculée, et allez dire ça à un gars comme moi qui travaille avec l'individu, le sujet et ses singularités, qu'il ne sert plus à rien de le faire, car ce n'est plus utile, que nous ne sommes plus que des numéros. David Vincent, si tu nous écoutes, bonjour à toi. Alors les neurosciences nous le disent régulièrement. Le cerveau de l'homme tente de donner du sens aux événements que ce dernier vit, même parfois au détriment du réel. Et à ce propos, je vous parlerai un jour d'une expérience faite avec des patients émi-négligents et des mains qui est bluffante de surréalisme et qui montre combien l'homme tente de donner du sens parfois à tort et à travers. Voilà donc où en était mon état d'esprit lorsque mes pas m'amenaient vers ce studio ce matin. Et puis je me suis rappelé du livre que je suis en train de lire pour l'instant et qui a été écrit par Edgar Morin. Il s'agit d'un livre sur le concept de complexité. Je vous passe les détails, mais en gros l'idée tient en quelques mots. L'époque, les explications simples et révolues, le temps de l'analyse de notre univers sous l'angle du très petit, car très divisé, par exemple, la cellule, la molécule, l'atome, n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, une partie de la compréhension de notre monde, le très grand ou le très petit, le scientifique, le culturel, le psychologique, passe par le fait d'envisager la complexité des phénomènes. Une pierre posée au sol, par exemple, est peu influencée par les événements extérieurs, et elle influence en retour assez peu l'environnement où elle se trouve. Par contre, une bougie allumée est bien plus dépendante de son environnement, et bien plus agissante sur celui-ci. Merci, Manique. Alors, donc, bien plus dépendante de son environnement et bien plus agissante sur celui-ci. Elle a besoin d'oxygène pour brûler. Lorsqu'elle brûle, elle se consume et arrivera un moment où le matériel à brûler sera manquant. La complexité des interactions est bien plus grande. Elle dépend de l'objet et de facteurs autour de l'objet. Cet objet est influencé et influence en retour. Appliqué à notre mode de vie, cette approche est bien plus enrichissante pour notre compréhension du monde que les simplismes dont on nous bombarde allègrement à la télévision, sur Twitter, la phrase brève au service des idées courtes, comme le disait l'ancien ministre français Cazeneuve, ou parmi les complotistes de tout poil. Elle est bien plus enrichissante, mais surtout nécessite un plus de travail d'analyse et de réflexion, ce qui n'est plus vraiment un concept à la mode aujourd'hui. En tout cas, il ne se fait pas entendre à la hauteur de ses ambitions. Un chercheur français qui a écrit un livre sur les effets grandement néfastes des écrans récréatifs parmi la jeunesse expliquait que les simplismes, le fait de faire planer le doute sur telle ou telle recherche, étaient largement plus efficaces pour instiller le doute dans la tête du grand public que n'importe quelle autre méthode. C'est ce qu'ont fait les lobbies du tabac, par exemple. Pour une contre-vérité distillée lors d'une émission télévisée en quelques secondes, il lui fallait à lui un temps considérable pour inverser la vapeur. Preuve à l'appui, sans garantie de réussite. Me voilà donc contraint de choisir mon camp, malgré que je sois un David tremblotant sur mes guiboles, le camp des simplismes et du mainstream, ou celui de la résistance, de la recherche, de la complexité de l'individu, de l'humain. Nos voisins musulmans termineront la semaine prochaine un mois d'efforts. Par solidarité avec eux, je continuerai les miens et je choisis le camp de la complexité. À bientôt.
Bravo, monsieur Patrick.
Oui. Je vais rentrer chez moi maintenant.
Une fois de plus, monsieur Patrick a mérité sa rémunération mensuelle.
Je vais prendre un petit spéculoos.
Vous avez le droit de prendre exactement un petit spéculoos sur la table. On en parle au CA, mais a priori l'augmentation pourrait être.
C'est pas. Non, non, on a une année très difficile, monsieur Patrick. Ce ne sera pas possible cette année, l'augmentation. Vous le savez. Vous le savez.
Tant pis, vous continuerez à abuser.
Et puis vous multipliez les frais, ça va. Quoi.
Je crois que votre demande pour peut-être clôturer l'émission, je crois que le son fait à peu près 5 minutes. Donc on va peut-être se dire au revoir avec ce son. Donc un Bruce Springsteen, si je ne dis pas de bêtises.
C'est celui que vous n'aimiez pas que vous me disiez là.
Ah oui, mais c'est comme chaque semaine, monsieur Patrick. Avant peut-être de le lancer, on va peut-être se dire au revoir.
Au revoir, ouais. Est-ce qu'on n'écoute pas les enfants?
Est-ce qu'on a le temps? Je sais pas.
On pourrait avoir le temps, mais ça serait peut-être supprimé, Bruce Springsteen.
Eh ben, les enfants un tout petit peu, puis Bruce, non? Il fait combien de temps, les enfants?
1 minute 30.
Voilà, les enfants sur les droits.
On peut s'écouter les enfants et enchaîner direct avec Bruce, alors. On se dit au revoir, merci à Romain, merci à Camille d'être venu nous voir, c'était très agréable.
Merci pour l'accueil, merci beaucoup.
Courage pour la suite et puis pour les habitués, on se dit à la semaine prochaine.
Non, rediffusion.
Rediffusion.
C'est là, congé.
C'est vrai que c'est congé.
Avec Alain Souchon. Monsieur Patrick assure l'intendance évidemment comme à chaque fois.
Donc, avec Alain Souchon.
C'est ça.
Une heure d'émission d'Alain Souchon.
Notre ligne ouverte sera assurée par Monsieur Patrick.
De 10 CD s'il faut.
Merci, ça sera parfait pour la prochaine brocante. Bonne fin de journée, à très vite.
On a dit que les garçons ne pouvaient pas frapper les filles. Et c'était écrit sur le Coran, mais nous, on ne sait pas si on ne peut pas frapper les garçons ou on peut frapper les garçons.
On a regardé dans les petits livres pour savoir si les filles pouvaient frapper les garçons. Et non, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de distinction entre les filles et les garçons.
C'est que les profs, ils favorisent tout le temps les filles. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ouais, on dirait que les profs, ils favorisent tout le temps les filles et ils peuvent pas. Il y a les garçons, ça existe.
Alors, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit le garçon, c'est complètement vrai. J'ai un exemple pour le prouver. Il y a des filles en classe, ils ont ramené un téléphone et ils les regardaient pendant les toilettes. Ok, dans les toilettes. On le dit à madame, madame dit... Je vais vous prendre vos téléphones et je vous le rends à la fin de la matinée. Et moi et mon pote, comme on est des garçons, on ramène un petit talkie-walkie tout bête. C'est rien comparé à leur truc. Juste pour jouer un peu avec. Et madame, elle vient, elle commence à nous crier. Elle nous met punie toute la récré et tout. Au lieu qu'eux, ils ont ramené un tel comme ça. Et nous, on ramenait un petit truc comme ça. Et elle vient, elle nous punit au lieu que les filles ne nous ont rien dit.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. On the streets of this town, ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you.